Alors bonjour, bonjour à chacun, ça me fait plaisir d'être là. Et puis je me réjouis bien sûr du jour où on pourra être tous ensemble réunis ici. Alors depuis Pâques, on a commencé une nouvelle série intitulée Portraits de disciples. Et puis on a pu voir comme ça différents disciples qui ont été témoins de la résurrection. Cette série de portraits nous a permis finalement de cheminer aussi depuis Pâques jusqu'à aujourd'hui, le dimanche de Pentecôte. Il y a en effet 40 jours depuis Pâques jusqu'à l'ascension, jusqu'au départ de Jésus. Et puis 10 jours plus tard, c'est la Pentecôte. Donc cette fête, on peut aussi l'appeler aujourd'hui la fête de la cinquantaine. Pas parce qu'il y a 50 ans, mais parce qu'il y a 50 jours entre Pâques et la Pentecôte. Alors dans cette série de portraits de disciples, on avait commencé, je ne sais pas si vous vous rappelez, par les femmes qui étaient venues au tombeau dimanche matin, comme ça, très tôt, pour voir le corps, pour l'embaumer. Et puis elles avaient rencontré le ressuscité qui leur avait dit « Mais pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?» Puis il y a eu les disciples d'Emmaüs qui étaient partis en chemin. Ils sont aussi fait rencontrer par le ressuscité. On a continué aussi avec Pierre, ensuite Étienne. Et dimanche passé, on a eu aussi Thomas. Thomas qui a fait ce chemin de l'incrédulité à la foi. Aujourd'hui, je n'avais pas envie de m'arrêter sur un seul disciple, mais finalement de prendre tout le groupe des apôtres, tout le groupe des disciples qui s'y réunissent, parce que finalement, en méditant Actes 1 et 2, je me suis rendu compte que Luc, l'auteur de ce livre, il met vraiment l'accent sur le groupe, parce qu'ils sont ensemble, ensemble pendant tout ce temps d'attente, depuis le départ de Jésus, jusqu'à la Pentecôte, jusqu'à ce qu'ils reçoivent le don de l'Esprit. Alors c'est vrai que des fois j'appellerai les disciples, des fois les apôtres. Les apôtres, ce sont les envoyés du Christ. Et puis dans la Bible, dans ces textes aussi, les deux termes sont utilisés. Les disciples, ils sont ensemble, ensemble pour prier. Parce que Jésus, avant de partir, il leur avait dit « Restez, restez à Jérusalem, parce que le Père a fait cette promesse, il va vous envoyer le souffle de l'Esprit ». Alors, quelles sont les caractéristiques de ce groupe? Quelles sont les caractéristiques, les portraits, si on veut dire, de ces apôtres? C'est vrai que ces apôtres, ils se connaissent assez bien parce que ça fait plus de 3 ans qu'ils ont suivi Jésus comme ça. En Galilée, en Judée, ils se sont déplacés, ils ont été à plusieurs endroits. Ils ont écouté ses enseignements, ils l'ont vu agir, guérir, délivrer des gens, des esprits mauvais. Ils ont vu aussi comment il a prié pour la résurrection de Lazare. Donc, eux aussi, intérieurement, ils ont cheminé dans leur foi, ils ont grandi. Au début, ils avaient certainement une certaine conception de ce Jésus, de ce maître, mais finalement, petit à petit, ils ont découvert qu'il était certainement plus que ce qu'ils pensaient. Il était le Messie. Et puis, c'est vrai, ce groupe, la plupart, ils venaient du nord, de la Galilée. Certains, ils étaient frères et sœurs, comme André et Simon, qu'on appelle aussi Pierre, comme Jacques et Jean. Et ces quatre-là, d'ailleurs, ils étaient pêcheurs, pêcheurs de poissons, sur le lac de Galilée. Il y avait Matthieu aussi, collecteur d'impôts. Ils étaient comme ça, tout un groupe, et ils ont appris à se connaître et puis à cheminer avec Jésus. Et maintenant, on les retrouve justement dans Actes 1, et ils sont dans cette chambre haute. Alors, j'aimerais vous lire Actes 1, 13 à 14. C'est Luc qui écrit. « Quand ils furent rentrés, ils montèrent dans la chambre à l'étage, où ils se tenaient d'ordinaire. » Il y avait Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques le fils d'Alphée, Simon le Zélote et Judas le fils de Jacques. Tous d'un commun accord étaient assidus à la prière. Il y avait avec des femmes, dont Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. Les disciples, ils sont finalement tous nommés dans Actes 1, 13, parce que leur présence est vraiment importante à ce moment-là, dans cette attente du don de Dieu, du souffle de l'Esprit. Ils sont ensemble, ils sont 11, puisque Judas est décédé. Et puis dans Actes 1, on voit justement qu'il y a la nomination de Matthias, Matthias qui va être nommé aussi apôtre en remplacement de Judas. Donc ils sont au complet à nouveau, ils sont là ensemble dans cette attente. Mais comment comprendre finalement la présence de Marie, la mère de Jésus et de ses frères à ce moment-là? Parce que c'est vrai qu'en Jean 7, verset 5, il est dit que les frères de Jésus, ils ne croyaient pas vraiment en lui. ils ne réalisaient pas que ben, c'est pas seulement leur frère, mais c'est aussi le Messie promis. Alors eux aussi, ils ont cheminé. Et puis il y a un autre texte un peu plus loin qui nous dit dans Matthieu 12, à un moment donné, Jésus il était avec ses disciples et il y a sa famille qui veut venir, qui veut s'approcher. Et puis là, Jésus, il parle et il dit, montrant de la main ses disciples, Jésus dit, « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Alors dès ce moment-là, quelque part, Jésus, il brise quelque part le privilège du lien de parenté. C'est en quelque sorte, il redéfinit qui est sa famille. Sa nouvelle famille, elle se base plus sur les liens de sang, mais sur finalement les liens spirituels. Jésus donne plus d'importance à ce moment-là aux disciples, à sa famille spirituelle, qu'à sa famille biologique. Et avec ce texte de Matthieu 12, on a en quelque sorte une clé de lecture pour nous faire comprendre, mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi Marie est là dans cette chambre haute à ce moment-là? Parce que quelque part, on réalise que si elle est là, c'est parce que maintenant elle est aussi considérée comme un frère et une sœur de Jésus, parce qu'elle aussi elle a cheminé et que maintenant elle n'est pas seulement la mère biologique de Jésus, mais elle est aussi son disciple et les frères de Jésus également. Et puis ben, les apôtres, ils sont disciples, mais eux aussi quelque part, eh ben, ils sont aussi les frères et sœurs de Jésus. Alors ce groupe-là, on pourrait avoir l'impression que c'est un petit peu différentes personnes de différentes origines, mais finalement c'est comme si Dieu il nous dit, mais c'est une seule famille. C'est la famille de Dieu qui est là, réunie, qui est dans cette attente, qui est dans la prière. C'est la foi en Jésus et la volonté de suivre aussi Dieu, de faire sa volonté, qui fait de nous aussi des frères et sœurs de Jésus. Et les femmes, eh bien, elles ont tout autant leur place à ce moment-là. Elles sont aussi présentes. Il y a Marie, la mère de Jésus, il y en a quelques autres, elles ne sont pas nommées. On peut imaginer que ça peut être les femmes qui étaient aussi au tombeau le dimanche matin. Ça pourrait être Marie de Magdala, Jeanne et d'autres, parce que finalement, il y en avait aussi plusieurs qui suivaient Jésus régulièrement. Et que font-ils ensemble? Eh bien, ils sont dans la prière, ils prient ensemble. Ils développent la relation fraternelle entre eux. Ils sont là, ils développent cette relation, on pourrait dire, horizontale. Et puis certainement, eh bien, ils prient des psaumes, ils chantent des cantiques, ils louent Dieu. Ils passent du temps dans la présence de Dieu. Et puis ils développent aussi cette relation verticale avec Dieu. Ils sont en communion avec Dieu. Et je trouve ça extraordinaire parce que Jésus, il y a quelques jours, ben, il est parti. Il n'est plus là, il n'est plus là physiquement, mais finalement dans la prière, eh ben, il est quand même là avec eux. Tous, comme un accord, ils étaient assidus dans la prière. Alors vraiment, ils étaient motivés. Moi, je trouve que c'est magnifique de voir que jour après jour, ils ont continué parce qu'ils ne savaient pas, eux, combien de jours ils devaient attendre, quand allait arriver l'Esprit de Dieu. Puis je me suis dit, mais quel était finalement leur sujet de prière? Peut-être certainement, c'était la reconnaissance, la proclamation des grandeurs de qui est Dieu. Peut-être aussi qu'ils s'attendaient, qu'ils demandaient, mais Père, envoie-nous ton Esprit. En tout cas, ils continuaient de prier jour après jour. Ils se réunissaient, ils revenaient ensemble. Ils restaient fermes quelque part dans leur résolution. Le verset suivant nous dit que Pierre se leva au milieu des frères. Au milieu des frères, c'est justement parce que tout d'un coup, on voit que c'est aussi ça qui est important, c'est cet aspect de la famille spirituelle. Et il nous est dit, il se leva au milieu des frères et là, il y avait réunis environ 120 personnes. Au début, c'était voilà, les apôtres, la famille de Jésus, on pourrait dire à peu près 20. Tout d'un coup, ils sont 120. Donc, c'est un groupe qui n'est pas fermé. Ce n'est pas un groupe qui est restreint, mais c'est un groupe qui s'ouvre. Il y a déjà la vie. Et puis, ils continuent à grandir. Ces disciples qui suivaient déjà Jésus avant, ben, finalement, ils sont aussi là. Ils sont aussi là pour être dans cette attente. Et peut-être qu'à l'époque, ils n'étaient pas encore tout à fait conscients qu'ils étaient en train de vivre quelque chose comme les débuts de l'Église. Les prémices de ce qui allait venir. L'Église, quelque part, en gestation, elle est née aussi de ses premières, des premiers disciples. Et voilà, tout d'un coup, c'est le grand jour. Le jour de la Pentecôte arrive et l'Esprit-Saint arrive. Il est là, il est donné, c'est comme un souffle puissant. Il y a comme du bruit qui arrive. Ils ne savent pas ce qui se passe, mais ils sentent un vent violent qui rentre dans la maison, qui la remplit. Et il y a comme des langues de feu qui viennent sur eux. Ils doivent être quand même assez bouleversés, étonnés. Et puis je trouve ça magnifique parce que c'est vrai, comme Anthony Perrault nous l'a dit tout à l'heure, ben, au début de la création, il y avait l'Esprit qui planait au-dessus de l'eau. L'Esprit Saint, il était déjà présent. Et au début de la création de l'Église, il y a à nouveau l'Esprit Saint qui vient, et qui vient et qui se manifeste, qui vient remplir nos cœurs de sa présence. Mais pourquoi le Saint-Esprit, il est venu ce jour-là, exactement 10 jours après l'Ascension ? Il aurait pu venir, je ne sais pas, 40 jours après, ça aurait fait 2 fois 40. Eh bien, c'est un jour très spécial aussi pour le peuple juif, parce que ce jour-là, en fait, il y avait une grande fête à Jérusalem. Il y avait énormément de monde, comme pour la fête de Pâques, la Pâque juive, parce que c'était la fête des moissons. On dit aussi la fête de Shavuot, en hébreu, la fête des semaines. Et lors de cette fête des moissons, c'était justement au moment où dans les champs, il y avait les premiers épis de blé qui venaient à maturité. Et Dieu déjà, dans l'Exode, il avait dit à Moïse, en Exode 23 et 34, on voit ces textes, de célébrer cette fête des prémices de la moisson. Et les gens, ils apportaient comme ça une gerbe de leur champ en offrande à Dieu. Et en réfléchissant, je me suis dit, mais ça me fait tellement penser à ce texte de Jean 4, 35, quand Jésus il est avec ses disciples, et puis il leur dit, mais ne dites-vous pas vous-même, encore 4 mois et viendra la moisson. Mais moi, je vous le dis, levez les yeux. Regardez, déjà les champs sont blancs pour la moisson. Jésus, lui, il parle d'une moisson spirituelle, d'une moisson d'âme qu'il vient. Et je pense qu'il voyait déjà finalement cette fête de la Pentecôte et le début de l'Église quand il a donné ses paroles. Parce que les prémices, c'est les fruits, les premiers fruits parvenus à maturité lors d'une récolte. Alors finalement, est-ce que ses disciples, ses premiers disciples, ça ne serait pas les prémices de l'Église, les premiers fruits que Dieu a fait, que Dieu a créé, que Dieu a donné? Les prémices de l'Église universelle. Et puis, il y a un autre texte qui parle de prémices, en 1 Corinthiens 15, 20 à 21. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un seul homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et cette fois, c'est Jésus, c'est intéressant, qui est présenté comme les prémices de la vie éternelle. C'est lui qui est le seul qui est mort et ressuscité pour la vie éternelle. Et il nous ouvre un chemin de vie pour tous ceux qui croient en lui. Alors quand ils ont reçu comme ça l'Esprit Saint qui est venu au milieu d'eux, il y a quelque chose de très particulier qui s'est aussi passé ce jour-là, c'est qu'ils ont commencé à parler en d'autres langues, des langues qui existaient. Ils ont commencé à parler en grec, en arabe, en perse, Et ils ont commencé à parler mais plein de langues, et c'était des langues que tous les pèlerins, en fait, qui étaient venus, des juifs qui étaient venus à Jérusalem pour la fête des moissons, ils parlaient aussi ces langues. Et tout d'un coup, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors eux, ce groupe, j'imagine, de 120, ils ont dû descendre dans la rue, se retrouver dans une place, puis tout d'un coup, il y avait plein de gens qui sont venus, qui ont entendu ce bruit, qui sont venus les écouter, et ils étaient tellement étonnés de les entendre parler dans leur langue. Imaginez, c'est comme si moi, tout d'un coup, ben, je me mets à parler en arabe. Ça ne vous aiderait pas, ou je ne sais pas, en serbe ou en chinois. Et alors, c'est vrai que pour les disciples, ça devait être particulier de s'entendre parler dans une langue qu'ils ne connaissent pas. Mais c'est là où c'est le miracle de la communication, le miracle de l'esprit, parce qu'à travers cela, eh ben Dieu il a pu parler au cœur de ces gens. Il a pu parler au cœur de toutes ces personnes qui étaient venues pour la fête des moissons. Et ils ont entendu un message, parce qu'à ce moment-là, il y a aussi Pierre qui s'est levé. Et puis, il a commencé à expliquer. Il a expliqué que ce n'est pas parce qu'ils avaient trop bu, parce que certains, ils étaient étonnés, émerveillés, mais d'autres se disaient, mais qu'est-ce qui se passe, ces gens? Comment c'est possible? C'est des Galiléens, ils ne connaissent pas d'autres langues. Ils parlent. Et puis, Pierre se lève, inspiré par l'Esprit, et puis commence à expliquer ce qui se passe et à prêcher la parole. Et puis, il reprend le texte de Joël 1, de Joël 3, verset 1. Il lui dit, « Dans les derniers temps, je déverserai mon esprit sur tout être humain. » Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, ils auront des visions. Et vos vieillards, ils auront des rêves. Il leur explique que ce Jésus qui a été crucifié là, il y a 50 jours, c'est lui justement qui est le Messie. C'est lui et il est ressuscité parce qu'ils en sont tous témoins. Ils l'ont rencontré plusieurs fois. C'est vrai qu'à cette époque, bien sûr, les Juifs, ça faisait des centaines d'années qu'ils attendaient ce Messie, qu'ils attendaient depuis longtemps. Il y a tellement de prophéties dans l'Ancien Testament qui annoncent la venue du Messie. Et Pierre conclut en disant, mais que toute la communauté d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Et là, ils sont tellement touchés, tellement impactés, que parmi les auditeurs, il y en a qui disent, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et Pierre, il leur répond, changez d'attitude, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit. Et ce jour-là, les personnes qui ont accepté cette parole, ils se sont fait baptiser et ils étaient déjà 3000. L'Église déjà commençait à grandir. Ils étaient 20, 120, maintenant 3120. Et c'est assez extraordinaire tout ce qui s'est passé ce jour-là. C'est vraiment, l'Église primitive a été comme, poussée par l'Esprit de Dieu, en avant. Ils n'auraient pas pu parler ces langues par eux-mêmes, mais c'est une grâce de Dieu. Alors c'est vrai, on peut se dire, après coup, nous, en lisant ça, mais le Père, il n'a pas envoyé l'Esprit n'importe quel jour, il a envoyé l'Esprit le jour d'une fête, le jour où il y avait de nombreuses personnes qui étaient rassemblées et des gens de différents horizons. On pense même que la foi, elle est arrivée en Italie jusqu'à Rome, enfin pas l'Italie, mais l'Empire romain jusqu'à Rome, à ce moment-là, parce qu'il y avait des chrétiens romains qui étaient aussi là, ce jour-là de la Pentecôte. Mais c'était, finalement, en lisant cela, je me suis dit, mais c'était que pour les Juifs, c'était comme un petit club qui s'agrandissait, mais c'était surtout pour le peuple juif que la Pentecôte, le Saint-Esprit a été déversé, puisqu'il faudra attendre en fait jusqu'à Acte 10, quand Pierre va et est invité chez Corneille, et que là, pour la première fois, il annonce la bonne nouvelle à quelqu'un qui est un impur aux yeux d'un juif de l'époque. Jésus l'avait préparé, il lui avait donné cette vision de voir des animaux, il lui dit, mais ne considère pas comme impur ce que moi, je vois comme pur. Et Pierre, il avait été dans un acte d'obéissance, il s'était rendu chez Corneille, dans sa famille, il avait prêché la parole, et là, à l'étonnement de tous, le Saint-Esprit était venu, et ils avaient été baptisés du Saint-Esprit. Et pour la première fois, quelque part, de l'histoire de l'Église, des non-juifs recevaient le baptême de l'Esprit. Alors je me suis demandé, mais après cette journée extraordinaire, avec tout ce qui s'est passé, comment les apôtres, comment les disciples, comment tous ces gens, ils ont continué? Alors j'aimerais vous lire Acte 2, 42 à 47. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et à la prière. Ils continuaient de prier. La crainte s'emparait de chacun et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par l'entremise des apôtres. Tous les croyants, ils étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, ils étaient assidus au temple. D'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et ils avaient la faveur du peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qui étaient sauvés. Donc on voit que c'est quand même très impressionnant tout ce qui s'est passé comme ça à la suite de ce jour de Pentecôte, tout ce que Dieu a permis, tout ce qui a continué aussi à se vivre. Moi, ce qui me touche le plus, c'est que finalement, cette communion qu'ils avaient entre eux dans la prière, ils ont aussi continué de la vivre après. Ils ont continué, ils ont même élargi parce qu'ils ont commencé à partager aussi leurs biens. Et la relation avec Dieu, de cette communion avec le Père, avec l'Esprit qui était là, avec le Fils, ils ont continué aussi de grandir dans cette communion-là. En même temps, c'était quand même des profonds changements radicaux. Du jour au lendemain, comme ça, on dirait que ça vient avec un certain naturel. Ils commencent à partager tout ce qu'ils ont. L'amour, l'unité et le partage, c'était vraiment des réalités présentes au sein de l'Église primitive. Et l'Église continuait de grandir. Alors que retenir de tout cela pour nous? Je me suis dit, finalement, eux, pendant ces 10 jours entre l'Ascension et la Pentecôte, ils étaient dans l'attente ensemble de prier, dans cette attente. Et nous, finalement, on est aussi dans l'attente, une autre attente, mais l'attente de pouvoir enfin aussi être ensemble, réunis ici à la Frate. de pouvoir louer Dieu, de pouvoir le célébrer ensemble. Et nous, on ne sait pas, certainement que ça va prendre plus que 10 jours pour qu'on puisse être tous ensemble, réunis, sans avoir toutes ces distances à respecter. Alors, pourquoi ne pas faire quelque part comme les disciples ? Prendre du temps dans la prière pour être en communion les uns avec les autres, pour être en communion avec Dieu, pour grandir dans notre vie de foi. C'est vrai que prier, ben, ça peut être aussi un exercice des fois fastidieux. Ce n'est pas toujours évident de s'encourager, de revenir. Parfois, j'avoue que ben, quand j'ai des temps de prière, j'ai l'impression de prier un peu dans le vide. Je ne sais pas toujours pour qui prier, comment prier. Et puis, à d'autres moments, ben, c'est des moments vraiment merveilleux, conduits par l'Esprit, où je me sens visitée, je reçois sa paix, je peux recevoir des pensées, de prier pour une personne, de prier pour des projets, de prier pour ce que Dieu me met à cœur. Et là, je me sens tellement bien et je trouve que c'est une grâce extraordinaire. Et je pense qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir. Alors comme les disciples l'ont vécu, est-ce que nous, on n'aimerait pas aussi quelque part vivre ça? Ce n'est pas possible encore aujourd'hui en grand groupe, mais je crois qu'on peut aussi le vivre par petits groupes. D'ailleurs, David Rosset et tout le conseil nous a proposé, à partir de jeudi, de nous retrouver ici, alors on peut être au maximum 50, pour un temps de méditation et de prière dans nos cœurs. C'est vrai qu'on peut certainement le vivre aussi depuis chez nous. On peut aussi demander que le Saint-Esprit nous visite tout à nouveau, qu'on puisse grandir justement dans notre communion avec lui, avec Dieu, notre communion avec les frères et sœurs, et qu'il puisse nous renouveler dans notre force, dans notre chemin de foi. Et peut-être que sans le savoir, avec toutes ces prières qu'on va faire monter à Dieu, il y a quelque chose aussi des prémices qui vont être semées de l'œuvre que Dieu a préparée d'avance pour nous, pour la Frate, pour toute cette région. Alors oui, continuons en tant que frères et sœurs de Christ à être ses témoins. Continuons à trouver des occasions pour prier ensemble, par téléphone, par petits groupes, ou ici, le jeudi soir. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne cette envie, cette soif de le rencontrer tout à nouveau. Au nom de Jésus, je vous bénis.